Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Gabriel Gaud. Gabriel Gaud, Évariste Sanchez Palencia, bonjour.
Bonjour.
Gabriel, les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous avez animé pendant des années l'émission de l'Union rationaliste. Vous êtes historien des sciences et nous avons aujourd'hui invité Évariste Sanchez Palencia, qui est mathématicien, qui a travaillé au CNRS où il est aujourd'hui directeur de recherche émérite. Il est membre de l'Académie des sciences et il est, comme vous Gabriel, au conseil d'administration de l'Union rationaliste. Nous allons aujourd'hui faire, avec vous deux, une petite promenade dialectique dans les sciences, ce qui est le titre de l'ouvrage d'Évariste Sanchez Palencia qui vient de paraître chez Hermann. Gabriel, je te laisse la parole.
Ma tâche sera d'autant plus facile que j'ai beaucoup aimé votre livre. Et je le dis tout simplement, et j'ai été surpris d'ailleurs que l'éditeur fasse un avertissement sur le style parlé du livre et sur un certain esprit polémique, car je n'ai rien senti de tout cela. En tout cas, je peux dire que vos connaissances, bien sûr, en mécanique théorique et en mathématiques appliquées, qui était votre spécialité, normalement, sont de très grande qualité, mais en tant que biologiste et historien des sciences, je dois dire que dans mes domaines de prédilection, eh bien, j'ai trouvé aussi beaucoup de connaissances qui étaient toujours de très grande qualité. Et j'ajoute aussi que vous avez manifesté sur la littérature, sur les arts, et notamment sur les opéras, des connaissances permettaient quelquefois d'illustrer le propos en les appliquant au développement de la science. Cela permettait, pour les gens qui connaissent mieux les opéras que la science, eh bien, d'avoir un support. Vous parlez de Tosca, de Rigoletto, de Carmen, et puis également d'Hamlet et de Macbeth. Votre livre commence par un coup d'œil sur l'histoire des sciences et je voudrais vous poser une double question sur ce premier chapitre. D'abord, en vous demandant, puisque vous avez pris des exemples variés, y a-t-il une unité à ces exemples ou bien au contraire, avez-vous pris ces exemples variés pour montrer précisément les variétés de la découverte scientifique? Et deuxième partie de la question, vous allez nous en détailler très brièvement, bien entendu, un exemple. Et j'ai pris l'exemple de Semmelweis. Semmelweis, ce médecin hongrois qui a opéré à Vienne à partir de 1846 et qui a sauvé la vie de beaucoup de parturientes en découvrant ce qui faisait mourir les femmes sans couche. Alors, voulez-vous essayer de répondre successivement à ces deux parties de la question ?
Pour la première partie, non, effectivement, ce sont des exemples disparates. Justement, c'est pour montrer la diversité des situations dans lesquelles les sciences se trouvent et les différents aspects de l'histoire des sciences pour illustrer par des flashs la diversité de la science. En ce qui concerne l'exemple de Semmelweis, c'est un épisode poignant de l'histoire des sciences. C'est très connu dans le monde germanique, malheureusement très peu chez nous. C'est un cas dans lequel l'évidence scientifique n'a pas pu surmonter les préjugés et les intérêts personnels. C'est lié à l'énorme mortalité des femmes lors de l'accouchement, qui fluctuait en général entre 3 et 6 décès pour 100 naissances. C'est absolument énorme. Mais cela n'émouvait absolument personne. On estimait que les femmes avaient l'immense privilège de donner la vie et elles en payaient les tributs. Les fluctuations étaient attribuées aux conditions atmosphériques ou autres. Nous savons à présent que la fièvre puerpérale est une infection des blessures naturelles de l'accouchement par le streptocoque. Mais l'infection et le streptocoque étaient inconnus du temps de Semmelweis, au milieu du XIXe siècle. Semmelweis travaillait dans une clinique obstétrique à Vienne dans laquelle il y avait deux sections qui étaient en tout point égales, sauf il y en avait une qui était desservie par des médecins et l'autre par des sages-femmes. Et il se trouvait que la mortalité était à peu près le double dans la section des médecins que dans la section des sages-femmes. Et personne ne savait les raisons de cet écart. Alors, Semmelweis traque toutes les différences et il s'aperçoit qu'il y avait quand même une différence de taille. C'était que les médecins, dans leur section, pratiquaient des autopsies des femmes décédées. Et donc, il estime que ce sont... Il estime deux choses. D'une part, qu'il y a une analogie entre la fièvre puerpérale et les pestes qui étaient déjà connues et dans lesquelles le phénomène de contamination était connu. Donc, il y avait un agent matériel qui véhiculait la maladie. Et d'autre part, que c'était les médecins eux-mêmes qui contaminaient les femmes arrivantes avec les miasmes, comme il disait, provenant des cadavres des femmes décédées. Alors, il a inventé immédiatement une méthode pour parer à cela, qui consistait à faire que les médecins se lavent les mains de façon très, très approfondie avec des produits chimiques, et immédiatement la mortalité dans la section des médecins descend pour être à peu près comparable à l'autre section.
Oui. Mais... Ah, je vous remercie. Oui, on va s'arrêter là sur l'exemple. Je crois que c'est assez démonstratif. Et là, justement, j'ai pris cet exemple parce que par la suite, quand vous parlez de l'expertise, vous donnez, je trouve ça très amusant, hein, l'exemple. On imagine que Semmelweis aurait eu à écrire un article qui aurait été examiné à l'heure actuelle par les experts, les référistes. Et alors, que serait-il passé dans ce cas-là?
Eh bien, le plus probable, c'est qu'il aurait été refusé, parce qu'il n'est jamais arrivé à surmonter les intérêts personnels. Il s'est querellé avec son patron, il est reparti à Budapest, et puis finalement, il a écrit un livre qui était un livre très peu convaincant, mal écrit, et il a menacé ses ennemis, il a développé un comportement paranoïaque. Et finalement, le plus triste, c'est qu'il est mort dans un hôpital psychiatrique à peu près une vingtaine d'années après la découverte.
Oui, ce qui montre que finalement, l'expertise est quelque chose sur lequel repose évidemment à l'heure actuelle la science et qui est très délicat. Et d'ailleurs, vous montrez très bien dans ce passage sur l'expertise, en dehors donc de cet exemple de Semmelweis, vous montrez très bien que les révolutions scientifiques qui sont des périodes brèves, on va dire, de l'histoire de la science, alors que les périodes de ce qu'on appelle la science normale sont des périodes beaucoup plus longues, eh bien, si on voulait noter les chercheurs par le nombre des articles qu'ils écrivent, et évidemment, ceux qui écrivent la science normale seraient avantagés par rapport à ceux qui font des révolutions. Par conséquent, les révolutions, les moments décisifs de la science pourraient passer inaperçus et ces chercheurs n'auraient pas le bénéfice, le fruit de leur découverte. Alors, je voudrais dire un mot maintenant sur un chapitre concernant le cerveau et l'ordinateur. Je crois que ce passage est intéressant parce que vous avez montré que le fonctionnement cérébral est très différent de celui de l'ordinateur et vous avez pris l'exemple d'un joli texte de François Jacob, prix Nobel de physiologie en 1965 avec Monod et Lvov, distingue une science de jour et une science de nuit. Et je voudrais que vous essayiez de nous expliquer de quoi il s'agit. Je précise, avant de vous laisser la parole, qu'il y a des propos semblables chez Charles Nicol, celui qui a découvert le rôle du pouls dans le transport du typhus. Et alors un autre personnage qui nous intéresse particulièrement, c'est celui du mathématicien Jacques Adamard, car Jacques Adamard, lorsque j'ai adhéré à l'Union rationaliste, était président d'honneur de l'Union rationaliste. Il est mort peu après, en 1963. Donc, pouvez-vous nous dire un mot de ces deux types de sciences et en quoi ceci est complètement différent du fonctionnement qui, lui, est parfaitement logique de l'ordinateur ?
Oui, effectivement, la science des jours et la science des nuits, c'est tout simplement la science qui est faite, qui est sûre de son avenir, et qui met en jeu des raisonnements qui s'articulent comme des engrenages. Et puis, au contraire, il y a la science qui est en train de se faire, qui constitue ce que Jacob appelle la science des nuits, C'est une science qui hésite, qui trébuche, qui se réveille en sursaut et qui vit dans l'atelier du possible. La science du jour, c'est la fièvre puerpérale et l'infection par le streptocoque. En point, c'est tout. Il faut se désinfecter avant d'aider à un accouchement. Par contre, la démarche de Semmelweis, l'analogie entre la fièvre puerpérale et la peste, l'hypothèse d'une contamination ou de l'existence d'un agent matériel inconnu véhiculant la maladie, ça fait partie de ce qu'on appelle la science de nuit. Et Charles Nicolle aussi avait des propos un peu dans le même sens. Il disait que l'intelligence de l'homme de génie est une intelligence qui n'est pas nécessairement très ordonnée, mais qui sait saisir ce qu'il y a de fondamental et qui passe complètement inaperçu des autres. Et puis, bien entendu, Jacques Adamar, qui a fait un travail tout à fait remarquable, un grand classique de la psychologie de la recherche, avec les quatre étapes fondamentales, qui sont, premièrement, le travail conscient, ensuite l'incubation, qui est le plus souvent inconsciente, et l'illumination, ou l'eureka, et puis la vérification. Ce sont des formes du développement du processus de recherche qui se retrouvent, il les a analysées pour les mathématiques fondamentalement, mais elles se retrouvent dans toutes les sciences.
C'est la raison pour laquelle quand on regarde la science au moment où elle se fait, ou quand on la regarde de façon rétrospective, c'est-à-dire quand on oppose la causalité à la finalité, hein, on a deux choses complètement différentes, et vous l'illustrez très bien par l'opposition entre Napoléon et Kutuzov dans le cas de la retraite de Russie. Moi, je vous l'avais dit précédemment, ça me faisait penser à guerre et paix et la différentes façons de voir les choses selon que qui a gagné la bataille de Borodino. C'est un gros problème.
Hein. Évariste, vous pouvez éclairer ce... pour nos auditeurs,
question. C'est un exemple que j'ai donné pour montrer la différence fondamentale qu'il y a entre la pensée ou les explications magiques et les explications scientifiques. Alors, bon, la bouteille diabolique de Stevenson, c'est l'histoire d'un talisman, une sorte de lampe d'Aladin. Et l'auteur raconte, Stevenson raconte, qu'elle avait appartenu à Napoléon. Et alors on peut se demander si cela expliquerait un peu l'histoire, si elle rendrait l'histoire plus intelligible. Alors nous pouvons imaginer que Napoléon avait un talisman. Bon, c'est évident qu'il ne l'avait plus lors de la retraite de Russie. Mais par contre, il est tout à fait vraisemblable qu'il ait eu un talisman lors de la bataille d'Arcole, où il y a eu un moment du plus grand danger, il y a une balle autrichienne qui a tué le colonel Mouiron, qui s'était interposé pour protéger le général Bonaparte. Ensuite, on peut imaginer, comme vous venez d'évoquer, qu'il ait vendu le talisman lors de la bataille de la Moscova, qui était très incertaine. Bon, on peut imaginer que c'est comme ça. Cela expliquerait toutes les victoires entre 1796, toutes les grandes victoires, entre 1796 et 1812. Le problème avec une telle explication, qui est une explication de type magique, c'est que c'est une explication qui n'est pas perfectible. Elle est incohérente avec le fait qu'il n'ait pas eu une victoire décisive sur l'Angleterre, ni un fils avec Joséphine, par exemple, qu'il a aussi voulu pendant cette période entre 1796 et 1812.
C'est-à-dire qu'on peut constituer la science comme on veut. Quand on revient rétrospectivement, de façon mythique, évidemment, on peut toujours trouver des explications adéquates. C'est ce que vous montrez très bien avec ces exemples. Et vous arrivez aussi, alors, sur la fin de votre ouvrage, à montrer que, de cette façon, on arrive aux prophéties qui s'auto-réalisent. Alors vous prenez l'exemple de Macbeth, vous prenez l'exemple du prince Igor, c'est tout à fait probant. Et puis l'exemple de la bourse, car la bourse, évidemment, ce sont des prophéties qui s'auto-réalisent à partir du moment où on craint, où on espère quelque chose, eh bien, on arrive à le faire produire. Et c'est comme ça que Lady Macbeth tue le roi d'un camp pour être sûr de réaliser la prophétie que son mari deviendra roi d'Écosse. Vous pouvez nous dire un petit mot de plus sur cet aspect ?
Oui, certainement. Ce sont des phénomènes qui mettent en jeu le fonctionnement du cerveau et surtout les interactions entre des cerveaux différents. Donc, ce qui est actif dans, dans le phénomène d'évolution, et c'est la pensée, les modèles mentaux que nous avons à un certain instant, des modèles mentaux du futur. Hein? Donc, c'est ça ce qui produit l'évolution des choses. Et ces modèles peuvent être très, très variés, peuvent être exacts ou inexacts, peuvent coïncider avec le futur ou pas. Et cela conduit à des situations extrêmement curieuses, comme celles que vous venez d'évoquer, qui sont certainement liées surtout à la crédibilité. Hein, le phénomène, est-ce qu'on est crédible ou non? Alors, c'est en fait que l'essentiel, c'est d'être cru, même si le prophète lui-même ne croit pas à la prophétie. Par exemple, si vous dites, vous êtes prophète, n'est-ce pas, M. Sanchez? Alors je vous réponds, oui, bien sûr, je l'ai toujours été. Par exemple, les actions de la société S vont monter. Alors si les auditeurs de cette émission me croient, cela marche. Alors ils vont acheter les actions de la société S et ces actions vont monter. Donc je deviens prophète alors que moi-même, je ne crois pas à la prophétie. Mais je ne crois pas que les auteurs de cette émission me croient. le cas de Macbeth est bien plus complexe parce qu'il fait intervenir la pensée de Macbeth et de Lady Macbeth. Ça, c'est un cas d'école extrêmement intéressant parce qu'il montre la différence entre les modèles mentaux construits par deux personnes différentes oui. d'une seule réalité.
Très bien, écoutez, je vous remercie. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps dans le
cadre de cette émission.
Cadre de notre émission. Mais le livre est à lire, car le livre contient énormément de choses.
Donc nous renvoyons à ce livre d'Evariste Sanchez-Palencia, qui vient d'être publié chez Hermann et qui s'appelle « Promenade dialectique dans les sciences ». Evariste Sanchez-Palencia, Gabriel Gohaut, je vous remercie. Le numéro de Raison présente de ce mois-ci porte sur le principe de précaution. Il est le compte-rendu du colloque de l'Union rationaliste. Je remercie Éric Boisset et Bruno Sourcy qui ont rendu possible cette émission. Je vous dis au mois prochain.